Chers amis, tout comme moi sans doute, vous avez déjà entendu cette expression « tu ne l'emporteras pas au paradis ». Peut-être même que sous le coup de la colère ou d'une vive émotion, vous vous êtes surpris à l'exprimer, la retenant de justesse du bout des lèvres ou la laissant sortir cette expression « tu ne l'emporteras pas au paradis ». Ce n'est pas très charitable, je vous l'accorde, mais parfois les mots dépassent la pensée, donnant libre cours au cœur qui parle. Derrière ces mots, il y a l'espoir qu'une justice récompenserait les bons et punirait les méchants, et que si cette justice n'est pas pour tout de suite, elle devrait se réaliser dans l'au-delà de la vie. Bien sûr, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers à espérer qu'un jour, les privilèges changent de camp et que ceux et celles qui ont souffert retrouvent leur dignité et que ceux et celles qui ont profité expérimentent le manque. Ce ne serait que justice, non? L'histoire que raconte Jésus à ses disciples semble apporter de l'eau au moulin. Il y a un pauvre qui souffre à la porte d'un riche qui l'ignore. Après leur mort, le pauvre rejoint Abraham au ciel et le riche sue et souffre dans le séjour des morts. Bien fait, pourrait-on dire. Ce n'est que justice, enfin. Cette manière d'espérer un revirement était courante en ce temps-là, dans la pensée populaire et religieuse, mais elle ne résout pas la difficulté de compréhension. Car méfions-nous des conclusions hâtives. Ne croyons pas trop vite que tous les profiteurs d'hier comme ceux d'aujourd'hui souffriront après leur mort. Parce qu'en affirmant cela, sans nuance, que fait-on ? Que fait-on de la grâce de Dieu pour chacun et pour tous? Irions-nous jusqu'à croire que nos actes garantiraient ou excluraient la clémence divine? Si c'était le cas, on ferait alors du Dieu d'amour un simple comptable qui tiendrait le compte pertes et profits de chacun de nous, et cette image-là n'est pas la mienne, sans doute pas la vôtre non plus. Il y a donc quelque chose à chercher ailleurs. Cette histoire, ou parabole, s'inscrit dans un cadre plus large qui pourrait s'intituler « Dieu et l'argent ». Et elle a une dimension symbolique. Ces deux personnages sont des caricatures assez grossières. D'un côté, le riche, anonyme, qui festoie et qui se croit à l'abri de toute vicissitude de la vie, et de l'autre, le pauvre Lazare, dont le nom signifie « Dieu aide ». Ce pauvre qui est à sa porte, espérant un petit signe de mansuétude, mais qui a pour seul compagnon d'infortune des chiens qui viennent le lécher. S'il y a bien un point commun entre les deux, c'est qu'il meurt. Il y a au moins une justice, nous voilà un peu rassurés. Mais ce qui se passe après ressemble à un miroir, une sorte de situation de vie inversée. Le riche se voit privé de tout privilège, il est seul, il souffre la soif, et le pauvre a le privilège, lui, d'être accueilli par Abraham, le patriarche. À demi-mot, Jésus adresse une critique à ceux qui font de leur situation privilégiée une occasion de se glorifier eux-mêmes. Sans les nommer, il pense aux chefs religieux notamment qui se croyaient à l'abri du besoin et du jugement de Dieu parce qu'ils étaient du bon côté. Ils regardaient alors les pauvres, les mendiants, les malades, les infirmes avec mépris, comme des laissés pour compte, des impurs dont il ne fallait pas s'approcher et même détourner le regard. Et Jésus d'identifier Lazare à ceux qui étaient qualifiés de pécheurs et qu'il côtoyait volontiers. Et dans l'histoire, Abraham n'est pas avare de reproches. Il rappelle aux riches tout le bonheur qui était le sien sur la terre et tout le malheur de Lazare. Alors, n'a-t-il pas droit, ce pauvre Lazare, à une juste compensation bien méritée? Alors le riche tente d'infléchir la sévérité du jugement. Il ne nie pas qu'il aurait dû agir autrement, mais que si lui ne peut plus rien faire pour les pauvres, alors que quelqu'un d'entre les morts, Lazare par exemple, retourne dans le monde des vivants et les met en garde ses frères afin qu'ils n'agissent pas de même. Mais à quoi cela pourrait-il bien servir? Tout comme le riche, ses frères ont entendu la loi de Dieu, exprimée par Moïse, par les prophètes, cette loi qui pourrait se résumer en « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais qui dit qu'ils agiraient différemment alors qu'ils ont cette parole à portée d'oreille? Sans doute l'histoire se répétera-t-elle une fois encore et encore de génération en génération, sans exclure évidemment une prise de conscience, un changement. Et voilà que cette parole, que cette histoire arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Nous, ce matin qui entendons cette histoire, ne serions-nous pas tentés de vouloir le rétablissement d'une justice divine devant les échecs de celle des hommes? L'actualité ne manque pas de nous montrer de tristes exemples d'injustice, et même à nos portes. N'avons-nous pas parfois cette pensée que les tyrans de l'histoire devraient souffrir au moins autant du mal qu'ils ont fait? Ils ne l'emporteront pas au paradis. Nous espérons que tous ceux qui sont morts pour de justes et nobles causes soient récompensés d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, je fais confiance à Dieu. Je lui laisse sa justice, persuadé qu'elle dépasse toutes mes conceptions de ce qu'est ou pourrait être l'idée même d'une justice véritable. Mais je me demande quand même ce qui est à ma portée, ce que je pourrais faire ici et maintenant. Car oui, cette histoire m'interpelle, moi, cette histoire nous interpelle, nous, aujourd'hui et ce matin. S'il y a bien un enseignement à retenir, c'est que c'est dans notre quotidien, dans nos engagements, notre travail, notre famille, notre quartier, notre paroisse, que nous avons à traduire la parole de Dieu en paroles et en actes, en nous souciant de ceux qui sont à nos portes. Dans le regard de Lazare, je reconnais des hôtes de la lanterne. Je revois des visages de pensionnaires de home. Je me souviens de certaines personnes rencontrées et qui m'ont partagé leur vécu. Cette histoire que Jésus raconte n'est pas là pour nous culpabiliser de ne pas en faire assez ou d'avoir trop. Elle n'est pas là non plus pour nous décrire ce que sera l'au-delà de notre vie. Mais elle est là pour nous inviter à agir dès aujourd'hui, là où nous sommes, à faire ce qui est à notre portée, à faire un pas, un geste, à risquer une parole pour dire que Dieu aide. Dire, montrer que Dieu t'aide là où tu es, même si cela paraît dérisoire, même si cela est difficile à saisir dans le fond et le tréfonds de la pauvreté, pauvreté qui n'est pas seulement matérielle. Cette histoire n'est pas là non plus pour espérer un hypothétique revirement ou nous convaincre d'une juste rétribution pour plus tard, mais pour nous mettre en route dès aujourd'hui, pour que nous regardions notre prochain le tout proche, comme un frère, comme une sœur, en Christ et en humanité. Car ce que j'ai appris en écoutant nos hôtes de la lanterne, c'est que le seuil est souvent ténu entre un intérieur confortable et un extérieur incertain. Qu'on n'est pas à l'abri d'un coup dur, qu'on peut se retrouver de l'autre côté de la porte. Si on essayait de s'identifier à l'un des personnages de cette histoire, nous sentirions-nous plus près du pauvre Lazare ou du riche anonyme? Et je crois que là non plus, ce n'est pas qu'une question matérielle, car il y a des pauvretés intérieures, relationnelles, spirituelles, et il est sans doute bon de ne pas l'oublier. Et ce que j'ai encore découvert, c'est la volonté et la force intérieure de certains de se relever pour retrouver un mieux-être, connaître un nouveau départ. Et témoin de ces transformations, nous pourrions constater que oui, Dieu aide. Et ce ne sont pas que des mots jetés en l'air, ce n'est pas qu'un vœu pieux. Alors, pour conclure, ce que nous pouvons retenir de cette histoire, je l'exprimerai ainsi. Ne remettons pas à demain tout le bien que nous pouvons faire aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour préféré de Dieu qu'il choisit pour nous venir en aide. Voilà la bonne nouvelle. Amen.